Je voudrais lire du psaume 85, du verset 8 au verset 12. Psaume 85, du verset 8 au verset 12. Levons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Laisse-nous contempler, Éternel, ta grâce, accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que l'Éternel Dieu proclame. En vérité, il proclame des bénédictions sur son peuple et sur ses justes. Seulement, qu'il ne se tourne pas de nouveau vers les folies, vers la folie. En vérité, son salut est proche de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays, afin que la grâce et la fidélité se rencontrent, que la justice et la paix s'embrassent. La fidélité germera de la terre et la justice regardera du haut du ciel. Peut-être encore les deux derniers versets. Alors, le Seigneur nous bénira aussi pour que notre terre nous accorde son fruit. La justice marchera devant lui et il prendra garde au chemin de ses pas. Prions. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, tu n'es pas seulement au ciel, tu es aussi sur terre. Tu es présent partout. Le ciel et la terre se sont embrassés l'un l'autre. La justice et la paix se sont embrassés. Parce que toi, ô Dieu, tu es devenu homme et tu as placer un pont de la ciel au terre, de la ciel, du ciel à la terre et de la terre au ciel. Tu as été manifesté dans la chair en forme humaine pour faire de nous une race divine, des fils et des filles de Dieu. En ce jour, ô Seigneur, nous pensons à ta manifestation dans la chair et particulièrement de ce que tu as revêtu une forme de serviteur, d'esclave serviteur. Tu as apparu entièrement comme un homme emmailloté et là couché dans une crèche. Toi, Dieu Tout-Puissant, le plus grand miracle de tous les miracles, que Dieu ainsi est devenu homme à cause de l'homme. Nous te demandons que tu puisses bénir ce jour d'aujourd'hui, le faire devenir un jour particulier pour nous tous. Accorde ta grâce pour que nous soyons conscients de ce que tu as fait pour nous et en nous. Et rappelle-nous aussi ce que nous te devons, c'est-à-dire toute notre vie. Seigneur fidèle, nous plaçons cette réunion consciemment sous la conduite de ton Saint-Esprit. Nous te demandons que tu puisses nous sanctifier et nous purifier. Que le sang de l'agneau, par lequel nous avons été réconciliés, puisse aussi maintenant manifester parmi nous la réconciliation, le pardon, le salut et la grâce par ta miséricorde. et sois avec nous. Que tu puisses bénir ce jour. Bénis et sanctifie tous ceux qui sont présents et tous ceux qui plus tard écouteront encore une fois, qui vivront encore une fois avec nous ce service divin. Nous te remercions de tout notre cœur de ce que tu le feras dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le jour d'aujourd'hui est dans plusieurs domaines un jour particulier que nous vivons. C'est pour nous, c'est une réunion de la fin de l'année. Une réunion dans laquelle nous nous souvenons de ce que Dieu, dans le déroulement de cette année, a fait. Avec joie, nous nous en souvenons. Et avec reconnaissance, nous nous en souvenons. Une année qui ne reviendra plus. Chaque occasion que nous avons manquée ne reviendra plus. Mais chaque âme que le Seigneur, qui a été ajoutée au Seigneur, joint, conduit au Seigneur, restera comme fruit pour toute l'éternité. C'est sur terre une venue et un départ, ça, en cet endroit, dans le déroulement de ces 20 ans, nous l'avons tous personnellement vécu. C'était une venue et un départ. Des frères et sœurs âgés ont été rappelés à la maison, sont décédés et peuvent maintenant être auprès du Seigneur. Déjà, et d'autres se sont ajoutés au peuple de Dieu que le Seigneur a appelé à sortir et à qui le Seigneur a fait grâce. Pour cela, nous sommes très reconnaissants à Dieu du fond de notre cœur. Particulièrement ceux qui, aujourd'hui, peut-être pour la première fois, sont ici ou bien alors qui ont été ajoutés il n'y a pas longtemps. Nous vous souhaitons à tous très particulièrement la bienvenue. Avec ce souhait profond de notre âme, que vous aussi, vous puissiez comprendre la parole de Dieu et l'action de Dieu dans nos jours et que vous puissiez croire à ces choses et prendre part à cela. Pour nous, il s'agit vraiment de ce que ce ne soit pas seulement... Donc, pour nous, il ne s'agit pas de tenir des réunions et de jouer les pieux parce que simplement ça appartient à la vie dite chrétienne. Non, pour nous, il s'agit de ce que la parole que nous avons reçue de Dieu, nous puissions vraiment la porter en la transmettant avec la même véracité et la même honnêteté et sincérité et pureté avec laquelle les prophètes et les apôtres de la part de Dieu l'ont reçue et aussi l'ont reçue révélée. Nous pouvons, avec ce que Paul écrit aux Thessaloniciens, sincèrement le dire et le répéter. Notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. 1 Thessaloniciens 2, nous n'avons pas non plus altéré la parole de Dieu. 2 Corinthiens 4, et nous n'avons pas pris comme hier de chevaux des enseignements particuliers. Bien étrange, mais dans la balance, nous avons prêché la parole de Dieu. Les vérités bibliques, nous les avons prêchées dans l'équilibre et aussi tout le dessein de salut de notre Dieu. Ce jour est pour moi de nouveau un jour particulier et j'espère qu'il est aussi pour vous tous. Un jour dans lequel je pense en arrière en me rappelant à combien de pays dans lesquels j'ai pu voyager, comment est-ce que cela a été rendu possible, combien en tout de brochures ont été imprimées, combien de cassettes dans le monde entier ont été envoyées parce que cela a été rendu possible. Je voudrais aujourd'hui, avant d'entrer dans l'observation, de passer à l'observation de la parole. Du fond de mon cœur, je voudrais à vous tous vous dire merci. Je sais que c'est le Seigneur qui vous a mis son œuvre dans le cœur. Et que de cette manière, ensemble, nous pouvons prendre part à ce qui se passe maintenant dans le royaume de Dieu. Et cela conformément au dessein du salut qui, avant même la fondation du monde, a été conçu. Que ensemble ainsi, nous pouvons prendre part à cela. L'œuvre de Dieu concerne tous les peuples, les langues et les nations. Et le dernier week-end à Londres, je l'ai de nouveau vécu, que des personnes d'Haïti sont venues, du Ghana, du Nigeria, oui, de partout, du Niger, de partout sont venues pour écouter la parole du Seigneur. Et l'homme qui m'avait invité, après qu'il m'ait appelé devant, il s'est assis réellement au dernier rang derrière, au tout dernier rang. Et il a écouté avec tous la prédication. Et quand nous avions fini, il est venu devant et la louange à Dieu a commencé. Il disait mot à mot, frère Franck, je me suis attendu à beaucoup de choses de Dieu, mais dans mes attentes aujourd'hui, j'ai été surmonté. Nous avons jusqu'à maintenant dormi en fait. Et j'espère que, je lui ai dit alors, j'espère que Dieu vous a vraiment réveillé. Beaucoup ne savent pas ce que Dieu a fait dans notre temps. C'est peut-être raison que nous sommes heureux et reconnaissants de ce que, dans le royaume de Dieu, nous avons la grâce d'être à jour. Ça, je le dis avec une humilité profonde, pas avec orgueil, que nous soyons en train de regarder aux autres avec mépris. Non, loin de là. Mais nous regardons à Dieu. Comme ce cantique le chante, regardons au ciel, je monte mes yeux vers le ciel où on te loue dans la chorale céleste. Paul, l'apôtre puissant, l'a formulé dans cette parole merveilleuse et l'a résumé. Que celui qui veut se glorifier, qui se glorifie dans le Seigneur, qui se glorifie de la grâce de Dieu. Et ça, nous voulons, en cet endroit, en ce jour, le faire d'une manière très particulière. En ce qui concerne l'exposé, je voudrais dire pour finir, beaucoup de fruits durant cette année ont été présentés au Seigneur, beaucoup de fruits. La moisson qui a été récoltée peut se faire voir, peut être visible. Parfois, ici à la base, peut-être qu'on ne constate pas cela. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'une œuvre, d'une mission dans le monde entier et de ce que Dieu, n'est-ce pas, dans le monde entier fait par sa parole et par son esprit tel que Il a promis. Il a promis, avant le retour de Jésus-Christ, de restaurer toutes choses et d'envoyer les temps de rafraîchissement devant la face de Dieu et qu'il y aura une église épouse qui sera appelée à sortir, qui sera sans tache, sans ride irréprochable. Une église qui se tient dans la foi en Dieu et à la parole de Dieu. Une église qui croit la parole promise pour ce temps, qui a reçu la parole promise pour ce temps et qui attend l'accomplissement des promesses de Dieu. Une église qui est ramenée dans l'état primitif, qui existait dans l'église primitive. Je le crois et je reste attaché de tout mon cœur à cela. Que Dieu, complètement à la fin, aura une église telle qu'elle a été au tout commencement. Une église qui peut se faire entendre et voir. Une église du Dieu vivant dans laquelle lequel le Dieu vivant peut faire de grandes choses et confirmer sa parole, et confirmera sa parole. Aujourd'hui, je suis venu avec un peu d'informations, particulièrement pour ceux qui ne sont pas familiers avec tout, comme nous le sommes depuis 18, 20 ans, ou bien plus ou moins, qui sont familiers avec tout. Si par exemple ici, ou bien certains de parmi vous lisent dans une brochure, alors il est écrit dans le magazine de Life, un article, ou bien alors dans le magazine scientifique autrefois, et il voit la photo avec la nuée surnaturelle, alors vous lisez et vous vous posez la question, mais est-ce que cela est vraiment ainsi, ou bien alors est-ce que cela est seulement dit ainsi? Beaucoup de choses dans le domaine religieux dans nos jours sont seulement dites sans que cela soit vrai. Et c'est pour cette raison que je pense, pas que ce serait que vous ne nous faites pas confiance, non. Mais chacun a le droit d'examiner est-ce que les choses sont exactes et telles qu'on le dit. Chacun a le droit de sonder les Écritures, les Saintes Écritures, pour voir si la prédication est en accord avec la parole de Dieu. Et c'est seulement après cela que, si cela est le cas, alors c'est seulement comme ça que elle sera conforme à Dieu. En ce qui concerne la prédication, l'observation de la parole, je voudrais plus tard montrer les différentes photos, mais je lis cela avec les Saintes Écritures pour placer tout sur une base biblique. Un prophète de Dieu, un apôtre, quoi que ce soit que quelqu'un est, quelqu'un qui a été en tant que tel établi dans l'Église, doit être conforme à tout le témoignage des Saintes Écritures, dans ce qu'il enseigne, tout doit être examinable sur la base de la parole de Dieu et Christ, et on peut constater est-ce que cela est exact ou pas, ou est-ce que cela est conforme aux Écritures. Commençons avec ce texte qui s'ajuste à ce jour d'aujourd'hui, de Luc, le chapitre 2. Luc, chapitre 2, et à cela, aussi tout de suite, plus tard, ce qui sera à dire là-dessus, que j'espère au moins que vous recevrez avec reconnaissance. C'est dans Luc, chapitre 2, ces versets connus du verset 9. Je commence avec Luc, chapitre 2, le verset 9. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » C'est aujourd'hui dans la ville de David, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici la marque de reconnaissance pour vous. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de morceaux d'étoffe de laine et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix aux hommes du bon plaisir divin. En général, ce texte nous est connu de tous. Mais ce que aujourd'hui je voudrais relever est ce mot au verset 9. Et la gloire du Seigneur resplendit autour des bergers. Ici, il est dit au verset 9, et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Cette gloire n'était pas une représentation mystique. C'était une gloire visible de Dieu. C'était quelque chose de visible, une lumière visible. Elle était au milieu de l'obscurité de la nuit. C'est quand c'était nuit. Il faisait nuit. Et si nous parlons de la gloire de Dieu, alors ce n'est pas de choses obscures. Même de la même manière, quand nous parlons du Seigneur, nous savons de quoi nous parlons aussi. De la même manière, c'est aussi avec la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur était la nuée surnaturelle, la lumière brillante. Cette nuée, la gloire de Dieu, cette lumière surnaturelle, scintillante dans laquelle Dieu était enveloppé et à laquelle personne n'avait accès et que de cette manière on ne pouvait pas le voir. Comme c'est écrit dans Timothée, je voudrais au moins lire au moins deux versets de l'Ancien Testament pour vous montrer cela littéralement. Donc, avec les Écritures, la plupart des gens dans nos jours veulent l'avoir par écrit. Moi aussi, je veux avoir les choses par écrit. Prenons les trois versets du prophète Ézéchiel qui nous sont les plus connus. Ézéchiel, chapitre 1. Ici, nous lisions verset 28. Lisons verset 28. Vous pourrez plus tard lire les versets avant cela, mais parce que nous avons aujourd'hui là le souper du Seigneur, je veux seulement lire les versets pour montrer brièvement quelque chose et dire quelque chose là-dessus. Ézéchiel, chapitre 1, verset 28. Comme l'arc qui apparaît dans les nuages un jour de pluie, ainsi était l'apparence de la lumière brillante tout autour. Telle était l'apparence de l'apparition de la gloire de l'Éternel. Amen. Telle était l'apparence de l'apparition de la gloire de l'Éternel. Quand je la vis, je me prosternais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Ici, il nous est parlé de la gloire de l'Éternel. Cette lumière brillante, cette lumière surnaturelle brillante dans laquelle Dieu habite, c'était la gloire qui l'entoure. Elle pouvait être vue, mais Dieu, lui, ne pouvait pas être vu. Il était dans cette lumière. Il était dans cette nuée surnaturelle. Mais on n'a pas pu le voir avec ses yeux naturels. On voyait seulement la nuée de gloire, cette lumière brillante. Pas plus. Je vais vous lire d'Ézéchiel, le chapitre 3, verset 12, et ensuite le verset 23. Ézéchiel, chapitre 3, verset 12, et ensuite le verset 23. Alors la puissance de Dieu me souleva. Et j'entendis derrière moi un grand et puissant rugissement, tandis que la gloire de l'Éternel se levait de sa place. Il regardait, il voyait ce qui se passait. Et il vivait ce qui était lié avec cela. Pas une imagination, mais tel que nous pouvons voir un nuage naturel. C'est ainsi que les prophètes et les hommes de Dieu ont pu voir la nuée surnaturelle, cette lumière du Seigneur que les bergers, qui a entouré autrefois les bergers qui étaient dans l'obscurité de la nuit. Ézéchiel chapitre 3, maintenant le verset 23. Je me levais et j'allais dans la vallée et voici la gloire de l'Éternel y apparut. et se tenait là, tel que je l'avais vu près du fleuve du Kébar. Alors, je tombais sur ma face. Je pourrais lire tout un nombre de versets bibliques, d'autres écritures de la sorte, concernant la gloire de l'Éternel. Je me suis noté cela. Pourquoi est-ce que maintenant, de l'Ancien Testament, je l'ai lu? Simplement pour montrer, pour apporter de la lumière et de la clarté sur ce que nous avons lu dans Luc chapitre 2, ce que nous trouvons écrit dans Luc 2. C'est-à-dire que quand notre Seigneur est devenu chair, a apparu en forme humaine, il était dans la crèche. Mais la gloire surnaturelle de laquelle il s'est dépouillé, qu'il a laissé, n'était pas loin de lui. Elle aussi, elle est descendue sur la terre pour dire, maintenant, j'agis. Au milieu, dans l'obscurité de ce monde, maintenant, la lumière divine, surnaturelle, descend. La clarté vient. Je ne pourrais pas entrer ici dans les détails, mais il y a une chose que je voudrais relever. Dieu commence à agir. Il a commencé à agir dans le développement de l'histoire de l'humanité. Et au milieu de l'histoire de l'humanité, faire l'histoire du salut. Revenons à Luc chapitre 2 et relevons encore cela. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour de Luc 2, verset 9, il relit. C'était une gloire visible. Aujourd'hui, je suis venu avec les deux magazines américains, le magazine Le Life et le magazine scientifique. Les deux ont exposé à l'époque, alors que cette nuée surnaturelle de gloire, que vous ne pouvez pas voir de là où vous êtes assis, mais cela a apparu aussi au ciel. Aux États-Unis, cela est mieux à voir de ce côté. Cela a été pris en photo par des incroyants. Dr. James McDonald, un homme directement incrédule, incroyant. Il est resté aussi incrédule après cela parce que, n'est-ce pas, il ne pouvait pas redonner une explication mathématique ou bien alors scientifique. Vous voyez, Frère Branham a parlé de ça. Frère Branham disait que Dieu m'avait montré en vision que je devais aller au nord de Tucson, Arizona, dans les montagnes, et que là-bas, il parlera avec moi. Le 31 décembre 1962, Frère Branham a parlé de ça. Et le 28 février 1963, cela a eu lieu, ce que nous voyons ici. Une nuée surnaturelle. Une lumière que des milliers et des milliers de leurs yeux naturels ont vu et beaucoup l'ont prise en photo. Et c'est ainsi que cela, ce qu'il a donné comme témoignage, a été confirmé par des incroyants. Alors, si dans le prophète Ézéchiel, nous lisons que là, la gloire de l'Éternel a apparu au fleuve Kébar et que le prophète parle de ce que, comment est-ce que c'est? Elle s'est élevée et que la nuée est descendue. Frère Branham a fait la même chose et beaucoup d'autres aussi l'ont fait. Ils l'ont vu. Comment est-ce que cette nuée de gloire est venue? Comment est-ce que au-dessus des montagnes, elle s'est formée et elle est descendue ensuite? Et que Frère Branham a été enveloppé, a été pris dans cette nuée et qu'ensuite, elle s'est élevée et elle est allée vers l'ouest de l'Amérique et ensuite même jusqu'à l'Alaska. Elle est allée dans la région. C'est ainsi que des incroyants, des hommes incroyants, le disent, qui l'ont observé. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés amis, nous ne sommes pas le piège d'une tromperie. Nous croyons que Dieu vit. Il y a quelqu'un qui disait, bien alors le sacrifice d'une tromperie, non. Je l'oublie très rapidement, il y a quelqu'un qui disait que quelqu'un aurait eu l'idée que Satan vit. Donc, quelqu'un a inventé l'existence de Satan. Cela ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Dieu vit. Ce qui m'intéresse, c'est que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Ce qui m'intéresse, c'est que Dieu, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, d'une manière surnaturelle, a agi et qu'il y a toujours encore des hommes qui ont cru Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui encore. Et je veux compter dans ce temps à ces hommes qui croient Dieu. Nous voulons être des hommes qui croient Dieu. Dieu est surnaturel et est capable de manière surnaturelle de se manifester et de se faire connaître, de se faire voir. En relation avec cela, nous voulons relever les deux derniers versets lus. Luc 2, verset 13. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix aux hommes du bon plaisir du vin. » Dieu a fait un pont à l'humanité. Nous tous, nous étions séparés de lui. Nous allions sur le chemin de la perdition, sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Et alors le Seigneur a fait ce pont. Et pour cela, nous lui en sommes très reconnaissants. Si Dieu n'était pas devenu homme, aucun homme aurait eu la possibilité de devenir une race divine. Nous n'aurions pas pu devenir fils et filles de Dieu. Si Dieu lui-même, dans son Fils, ne s'était pas manifesté. À ma grande surprise, après le conseil de mon bien-aimé frère, je me suis acheté une traduction Martin Luther et j'ai lu des versets bibliques qui sont d'une grande importance et entre autres aussi dans le psaume 2 où il était toujours écrit « Baiser le Fils de peur qu'il ne s'irrite » et là au verset 12 du psaume 2, le mot « Fils » manquait. J'étais saisi intérieurement. Une douleur profonde m'a saisi. Je pensais, mais comment est-ce que les hommes peuvent oser jusqu'à même toucher à la parole de Dieu? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Justement, ce point est très important. Car aujourd'hui, le monde entier parle de ce que, oui, mais Dieu est notre Père. Ça, les musulmans, ça, les hindous, tous le disent. Il y a un hindou qui me disait, un homme d'affaires, un docteur, tel et tel, disait avec titre de docteur, entre notre religion et le christianisme, il n'y a pas de grande différence. J'étais dans un endroit et là-bas devant une image, j'ai adoré et je me sentais bien comme si j'aurais été en Inde devant une photo que nous avons là-bas, une image. Et cela aussi m'a pénétré le cœur comme une épée. Et je disais, mais cela n'a rien à voir avec Christ. Ça, c'est du paganisme. Ça, c'est de l'idolâtrie. Ce soi-disant christianisme devrait avoir quelque chose à Christ. Celui qui, et qui avait été la Madonna noire. Aucun homme le sait de toute manière. Mais vous savez de quoi il s'agissait. Pas pour critiquer. Mais nous pensons aux hommes qui sont conduits à la perdition avec des paroles religieuses. Et ils se réveilleront surpris après que l'abdication funéraire ait été tenue. Qui veut regarder cela sans rien dire? Nous ne touchons aucune religion et aucun homme. Mais nous nous donnons la liberté de dire aux gens la vérité. Et la vérité est et reste la parole de Dieu éternellement. C'est pour cette raison que la promesse est donnée déjà dans le psaume 2. Demande-moi et je te donnerai les nations, les extrémités de la terre pour héritage. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. L'humanité doit reconnaître la révélation du Père dans le Fils, car c'est dans le Fils que le Père est devenu notre sauveur, notre rédempteur, notre guérisseur, celui qui nous délivre et qui nous guérit. Celui qui ne reconnaît pas la manifestation de Dieu en Christ Jésus, le Fils, n'a pas de Dieu qui sauve et qui lui apporte salut. Croyez-vous tous à cela à 100%? C'est pour cette raison que dans l'Église primitive, on a insisté sur le nom de Jésus-Christ et sur sa personne. Qu'est-ce que Pierre pouvait dire? Il n'a pas été donné un autre nom à l'humanité pour être sauvé en dehors du nom de Jésus. La paix sur terre, sur la terre, paix aux hommes du bon plaisir divin. Il y a des hommes sur terre qui en Jésus-Christ étaient et qui sont en lui, qui étaient en lui et qui sont en lui. Tels que terrestrement, tous nous venons d'Adam, ça n'a pas d'importance. Quand est-ce que nous sommes venus au monde? C'est ainsi qu'il y a des hommes, c'est-à-dire des fils et des filles de Dieu, qui déjà étaient en Dieu. Et après que Dieu soit devenu homme, et que son côté fut ouvert, et que le sang a coulé, c'est ainsi que l'Église a été rachetée, a été sortie. Et depuis lors, les enfants, les hommes peuvent devenir des enfants de Dieu. Qu'est-ce que je souhaiterais de plus qu'aujourd'hui nous puissions être revêtus aussi de la gloire surnaturelle de Dieu. Que ce ne soit pas seulement que nous entendons des paroles de Dieu, mais que la présence de Dieu, nous puissions personnellement l'expérimenter. Je souhaiterais même que nos yeux, parfois même, puissent être ouverts pour que nous puissions voir dans la gloire de Dieu. Dieu vit. Il se révèle, il se manifeste, il parle, il sauve, il guérit, il manifeste sa parole, il confirme sa parole, il la révèle, il révèle sa volonté. Dieu est une réalité. La paix avec Dieu est une réalité aussi. Sur la terre, paix et bon plaisir divin dans les hommes qui l'agréent. Dans qui? Dans lequel des hommes il y a la paix? Ceux sur qui le bon plaisir de Dieu se repose. Et quand est-ce que le bon plaisir de Dieu se repose sur eux? Au moment où ils ont la confirmation d'avoir été agréés par Dieu et que son esprit a rendu témoignage à notre esprit, peut rendre témoignage à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu parce que nous avons cru en son nom. Que le Seigneur puisse aujourd'hui nous accorder cette assurance de la foi. Qu'est-ce que le Seigneur disait dans l'évangile de Jean? Si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. Mais nous croyons qu'il est celui qui devait venir. C'est pour cette raison qu'il est le « je suis », que nous n'avons pas besoin de mourir dans nos péchés. Lui, il est mort une fois pour toutes, pour nous, pour que nous puissions vivre pour lui. En fait, qu'est-ce que c'est que l'expérience même que nous pouvons faire avec le Seigneur? En quoi consiste cette expérience? Comment est-ce que ça s'extériorise? Nous venons à la croix avec notre vieille vie et nous la laissons là parce qu'elle a été crucifiée avec Christ. Et de là-bas, nous recevons sa vie nouvelle, sa vie divine. Et pour pouvoir ainsi, désormais, vivre de cette vie dans la foi au Fils de Dieu. Que ce jour d'aujourd'hui ne soit pas seulement une décision, mais une expérience que nous fassions avec Dieu. Une expérience qu'aujourd'hui, avec une nouvelle vie, avec une paix de Dieu qui est au-dessus de toute intelligence humaine, que nous puissions repartir d'ici. Au milieu d'un monde sans paix et avec haine et toutes sortes de semblables, nous pouvons avoir la paix avec Dieu. nous pouvons marcher avec notre Seigneur dans ses voies. Je voudrais encore lire plus des Écritures avant que nous ayons le souper du Seigneur. Matthieu chapitre 5, le sermon sur la montagne est très connu de tous. Matthieu chapitre 5, ici, c'est le verset 9. Je lis le verset 9. Bénis ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Comme une traduction dit, il y a le mot procurer, il y a plusieurs expressions pour procurer, mais ici, bénis ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bénis ceux qui ont la paix dans leur cœur et qui peuvent la porter et la produire et l'amener là où ils sont. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés amis, examinons-nous aujourd'hui quelles traces nous avons laissées là où nous sommes passés, par nos entretiens, par les actes que nous avons posés. Qu'est-ce que notre vie a laissé comme impression sur les autres? Qu'est-ce que cela a produit? Est-ce que c'était avoir raison, des disputes, des querelles, vouloir savoir mieux les choses que les autres, ou bien alors c'était la paix de Dieu qui est au-delà, au-dessus de toute intelligence humaine? Avons-nous procuré la paix, ou bien alors apporté le manque de paix, ou bien avons-nous été désagréables? Ou alors l'un ou l'autre. Le Seigneur veut que nous soyons des gens qui procurent la paix. Je vais vous dire comment cela arrive. Il est celui qui le fait. Je vais vous le lire de Ésaïe, le chapitre 9. Ici, une parole très connue de nous tous, un verset très connu de nous tous. Ésaïe, chapitre 9, versets 5 et 6. Car l'enfant nous sera né, le fils nous sera donné, sur l'épaule duquel reposera la domination. Et son nom sera merveilleux, conseiller, Dieu vainqueur, Père éternel, Prince de la paix. Remarquez-vous de quoi il s'agit? La paix. Il est écrit ici, Prince de la paix. Et après, ça est écrit, sa domination sera étendue. Et la paix ne cessera pas sur le trône de David, verset 6, Ésaïe 9. Et pour sa royauté, l'établissant et le soutenant par la justice et l'équité. Dès maintenant, jusqu'à dans l'éternité, le zèle de l'Éternel des armées accomplira cela. Dieu a du zèle pour son peuple. Il veut, comme prince de la paix, pouvoir accorder aux siens sa paix. Paix comme un fleuve, chante un cantique, la paix avec Dieu. Nous voulons aller dans l'évangile de Jean, le chapitre 14, et lire Jean, chapitre 14, verset 27. Ici, il est écrit les paroles suivantes. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne soit pas troublé, qu'il ne se trouble pas. Le monde, n'est-ce pas, nous donne la paix tant que nous sommes en accord avec eux. Mais Dieu, lui, l'accorde sa paix. Une paix qui reste éternellement, qui n'est pas dépendante des circonstances, comme il est écrit, dès maintenant, jusqu'à dans toute éternité. On l'a lu dans le prophète Ésaïe. Et l'alliance de ma paix ne s'ébranlera pas sur les montagnes. Que les montagnes puissent s'ébranler, mais la paix, l'alliance de la paix que Dieu a faite en Christ avec nous reste valable éternellement. Romains chapitre 5, verset 1, aussi connu de nous tous. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, il est parlé de la foi. Il est parlé de la justification. et de la paix avec Dieu. Celui qui croit que par l'offrande unique du sacrifice divin devant Dieu a été justifié, celui-là ne peut rien faire d'autre que de venir à la paix de Dieu. Il devient calme, tranquille, et il reçoit la paix de Dieu. Vous savez, nous ne sommes pas tout à fait parfois satisfaits avec nous-mêmes et nous vivons dans comme une discorde avec nous-mêmes. Mais au moment où ce que Dieu a fait pour nous dans la foi, sans doute, nous l'estimons valable, nous le reconnaissons valable. Et nous disons aussi vrai que Dieu vit et qu'en Jésus-Christ, il est devenu homme et que sur la croix à Golgotha, il a fait une nouvelle alliance et que par son sang saint, il a expié et pardonné nos péchés et nos fautes. Et que nous disons amen à Dieu et à sa parole du plus profond de notre cœur. Alors cela ne peut pas être autrement que nous recevions de nouveau la relation avec Dieu rétablie et la paix avec Dieu. Nous l'expérimentons personnellement. Nous devons en fait prendre la décision qui nous voulons croire. Ce qui nous entoure, les circonstances, ce qui s'attache à nous, bien ce qui s'accroche à nous, et comme ça, veut nous conduire dans une discorde avec nous-mêmes. Ou bien alors, est-ce que dans la foi, nous voulons comprendre que Dieu a payé le reçu, la facture, et qu'il a expié le péché et qu'il a manifesté la justice éternelle, comme c'est déjà écrit dans le prophète Daniel, dans les 7 choses qui sont écrites là-bas, le texte a été promis. Un oint sera. Un homme oint viendra et il y aura la justice éternelle que Dieu manifestera. Un oint. Un saint oint. Dites-moi, est-ce qu'il a fait à Golgotha? Si oui, alors dites amen à cela. Ça, nous le croyons de tout notre cœur. Daniel 9, verset 24. Et c'est à ce moment-là où nous croyons cela. Que de la part de Dieu, nous avons été justifiés aux yeux de Dieu. Alors le diable, à ce moment-là, a perdu tout droit sur nous. Il va toujours essayer, comme les trompeurs le font, toujours de nouveau, n'est-ce pas, d'écrire une lettre de condamnation. Hein. Il va toujours écrire une nouvelle lettre de condamnation. Et dire, voilà, là, tu n'as pas encore payé ici. Là, tu dois encore quelque chose. Là, tu n'es pas encore pardonné, là. Non, tout cela n'existe plus. La lettre de condamnation est déchirée, est effacée et déchirée. Le mur de séparation a été ôté. Et là, totale justice divine nous a été accordée en tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Décidez-vous alors aujourd'hui. Acceptez cela de tout votre cœur. Pour que cela puisse devenir une réalité divine. Et que cela est devenu une réalité divine. Présentez plutôt le diable comme un menteur et dites, Satan, rien de moi. Tu n'as aucun droit sur moi. Ce que tu dis, ce que tu exiges est déjà payé. Est déjà pardonné. Tout a été rétabli, rien de moi. Mon Seigneur, mon Sauveur, mourut pour moi sur la croix à Golgotha. Justement pour toutes les choses que tu accuses. Je crois ce que le prophète Esaïe a dit. Il a porté sur lui toutes nos fautes et nos péchés et nos maladies. Tout, pas seulement, ou bien seulement quelques-unes. Tout, il a tout payé, il a tout porté. Tout ce qui t'a atteint par la chute de l'homme. Tout ce qui a nuit à ton âme, à ton corps et à ton esprit. Même à cause de ses souffrances, à cause de nos souffrances, à cause de nos péchés. Il a été blessé, meurtri, pour que par ses meurtrissures nous soyons guéris. Il a dit qu'il a appelé à l'Éternel de le meurtrir par la maladie. Quand il aura livré sa vie comme sacrifice d'expiation pour le péché, il verra une postérité et vivra de longs jours. Et la volonté de l'Éternel dans le plan de salut s'accomplira par lui. Que la volonté de Dieu par nous s'accomplissent, nous qui sommes devenus semences divines, race divine, qu'elle puisse s'accomplir sur terre par nous. Nous pouvons que honorer Dieu par la foi et soutenir notre foi par l'obéissance. Pas seulement dire je crois, mais que l'obéissance suive. Éphésiens chapitre 2. Ici, il est écrit à partir du verset 13, la chose suivante. Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui étiez autrefois éloigné, vous vous êtes rapproché par le sang du Christ. Amen. Oh, ce n'est pas assez fort. C'est pas à moi que vous dites l'amen. C'est à Dieu que vous dites amen. Et nous écoutons ce que Dieu nous dit par sa parole. S'il vous plaît, acceptez la parole de Dieu telle que c'est qu'elle est. Elle est sortie de la bouche du Seigneur pour notre consolation, pour notre réconfortation, pour notre force, pour nous soutenir. Suivez de tout votre cœur. Ça n'a pas sa place ici, ce que je vais dire maintenant. Mais alors que j'avais prêché à Londres, et c'est là, de ces nouveaux passés, alors qu'il y avait quelque chose d'important qui était dit, il y a un homme de la Jamaïque qui était assis au piano. Au piano. Et quand quelque chose de fort était dit dans la prédication, il a de nouveau joué le piano comme il le pouvait. Il a joué, je vous dis, le chœur. Et tout le peuple a suivi. Et il y avait de l'enthousiasme. Il y avait la vie. L'Esprit de Dieu pouvait agir. Nous ne devons pas nous plaindre de notre mentalité. Hein? Elle est très bien ici au centre de l'Europe. Mais quand nous écoutons la parole de Dieu, s'il vous plaît, nous devrions suivre intérieurement. Elle est si puissante que Dieu parle avec nous lui-même. Nous devons en être conscients et que c'est sa parole et son esprit qui nous révèle ses voix à tel point que même un insensé ne peut pas se perdre. Je continue à lire dans Éphésiens, chapitre 2, verset 13, je viens de le lire, maintenant le verset 14. « Car il est notre Père, lui qui a fait des deux parties une seule et même union, et qui a ôté le mur de séparation, l'inimitié. Après qu'il ait par l'offrande de son corps supprimé la loi avec ses commandements écrits dans des statuts de manière à créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau qui procure la paix. Pour qui procure la paix? Quelle part merveilleuse! Le prince de la paix a été manifesté dans la chair. Son nom est merveilleux, conseiller, Père éternel, prince de la paix. L'enfant nous a été né, le fils nous a été donné. Lui seul peut nous accorder cette paix, si nous le recevons. Mais avant de pouvoir avoir la paix, il faut que l'inimitié soit ôtée. Et l'inimitié vient toujours de l'ennemi. Et le Seigneur, comme semence de la femme, a brisé la tête du serpent. Et sur la croix à Golgotha, il a vaincu l'enfer, la mort et le diable. Et il nous a libérés. Il a payé nos fautes. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Ça n'a pas encore été manifesté ce que nous serons. Mais nous sommes déjà enfants de Dieu. Je lis maintenant dans Éphésiens. Et nous allons venir au verset qui nous conduit dans le souper. Oh, la parole est si précieuse. Elle nous pénètre. Elle nous pénètre jusqu'à dans les eaux. Éphésiens, chapitre 6, verset 15. Chaussé aux pieds de la disposition à proclamer le message de paix. Chaussé au pied de la disposition à proclamer le message de paix. Nous parlons aujourd'hui de la paix. Paix sur terre et bon plaisir divin dans les hommes qui l'agréent. Nous avons montré que le prince de la paix vint pour nous apporter la paix. Pas une démonstration de paix. Aujourd'hui, ça commence. Et puis, pendant ce temps, pendant qu'on fait une démonstration de paix, on brûle les voitures, on casse les magasins. Non, non. Ici, il s'agit de la paix avec Dieu qui est au-dessus de toute intelligence humaine. Tout le reste est qu'une apparence de paix et elle est déjà jugée à échouer. Nous devons être prêts à proclamer le message de paix. De Thessaloniciens chapitre 3, verset 16. Mais lui-même, donc de Thessaloniciens 3, verset 16, le Seigneur de la paix vous donne sa paix en tout temps. Et en toutes circonstances, Que le Seigneur soit avec vous tous. Nous avons lu l'évangile de la paix, le message divin de la paix, le Seigneur, le Prince de la paix, le Dieu de paix et aussi le Prince de la paix. La paix avec Dieu. Tout nous a été accordé par Dieu, par sa grâce. Nous lisons de notre Seigneur dans Hébreux, le chapitre 7, la chose suivante. Ici, de l'histoire de Genèse 14 est redonné ici le roi de Salem, alors qu'Abraham était allé à sa rencontre pour fêter le souper. Il avait du pain et du vin avec lui. Ici, nous avons du pain et du vin ici. Aujourd'hui, nous voulons, avec le Seigneur, fêter le souper. Vous pouvez aller dans Genèse 14, à partir du verset 17, et lire. Alors que le Seigneur était venu à lui, était sorti à lui avec du pain et du vin pour avec Abraham fêter le souper. Ici, dans le Nouveau Testament, dans Hébreux chapitre 7, peut-être que nous lisons à partir du verset 1. Car ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, sortit à la rencontre d'Abraham au retour de sa victoire sur les rois et le bénit. Hébreux 1, verset 1 donc. Et le bénit. C'est pour cela qu'Abraham lui a aussi réparti le dixième de tout le butin. D'abord, si l'on interprète son nom, il est roi de justice, mais aussi roi de Salem, ce qui signifie roi de paix. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de vie, de jour, ni fin de vie. Mais il est semblable au Fils de Dieu. Il demeure sacrificateur pour toujours. Quelle parole merveilleuse, quelle lumière, quelle clarté. Le même qui dans l'Ancien Testament n'était pas encore devenu homme, qui n'était pas encore en mailloté dans une crèche, qui n'avait pas encore de père et de mère, ni commencement de jour, ni fin de vie, il nous est présenté ici. Aujourd'hui, nous regardons en arrière et nous voyons terrestrement. Il a eu un commencement. Terrestrement, il a eu une fin. Mais spirituellement, divinement, il n'avait ni commencement et n'aura pas de fin. Lui le même pouvait dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Nous sommes tant reconnaissants à Dieu de ce que nous pouvons regarder au-delà du rideau du temps et comprendre la révélation de Dieu en Christ, pas par l'expliquer, par notre intelligence, notre entendement, mais révélé par le Saint-Esprit. Aux uns, le Seigneur est caché. Aux autres, il est révélé. Cette parole, je voulais déjà, comme introduction au souper du Seigneur, l'avoir lu. Comme autrefois, le roi de Salem, le roi de justice, le roi de paix. Et je vous pose la question aujourd'hui, qui est le roi de justice? Qui est le roi d'honneur? Qui est le roi de paix? Il n'y en a qu'un seul. Le roi de tous les rois et le seigneur de tous les seigneurs. Si vous le croyez, dites Amen. C'est ainsi, et c'est ainsi que cela reste valable. Il est le roi de Salem. Shalom, paix. Il est le roi de paix, le prince de la paix, le prince de la paix. C'est en lui que nous avons la paix avec Dieu, que nous avons trouvé la paix avec Dieu, tel que lui-même. Il est une réalité. C'est ainsi que sa paix, sa grâce, sa vie, son esprit, sa parole, tout cela doit pour nous devenir une réalité divine dans notre vie de tous les jours. Et cela, par l'Esprit de Dieu, doit nous être révélé. Encore un verset. Colossiens, chapitre 3. Je sais que la dernière fois, ici, le dernier dimanche en novembre, comme je le constatais plus tard, j'ai utilisé 3 heures, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Colossiens 3. Ici, nous lisons verset 15. Colossiens chapitre 3, verset 15. Colossiens 3, verset 15. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs, à laquelle vous avez aussi été appelés pour former un seul corps. Et montrez-vous reconnaissant pour cela. Si nous avons expérimenté vraiment Dieu et savons que nos fautes ont été expiées, nos péchés ont été pardonnés, et que la colère de Dieu n'est plus sur nous, et que nous avons reçu la grâce de Dieu. Si quelqu'un est assis en prison et qu'il reçoit la grâce et qu'il est libéré, alors les portes s'ouvrent et les portails s'ouvrent. Il peut sortir libre. Notre Seigneur a libéré les captifs et a fait sortir les prisonniers. Celui qui reste encore prisonnier aujourd'hui n'a pas encore compris que, en fait, les portes sont ouvertes et qu'il peut sortir. Et nous tous, nous sommes libres. Qui veut aujourd'hui dans la foi l'accepter? C'est un don de Dieu. Que le plus grand que l'humanité ait reçu. Mais il faut que cela soit reçu, accepté, reconnu, accepté. Cela, pas une philosophie, pas un enseignement. Accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Il est notre paix. Il est la parole, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, il est la lumière, il est tout, en tout, en tous, acceptez-le entièrement, dans tout ce qu'il est, vraiment de tout votre cœur. Et dites, bien-aimé Seigneur, aussi vrai que tu t'es entièrement donné pour moi en sacrifice, et que tu as dit, pas ce que je veux, mais ce que tu veux, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Pas comme je le veux, mais comme tu le veux. C'est ainsi que je te donne aussi ma vie, de la même manière, entièrement. Est-ce que nous voulons le faire? Le penser réellement? Le dire, c'est ainsi. Seigneur, entièrement pour toi. Entièrement pour toi. Cela ne nous a pas entièrement réussi, n'est-ce pas? Chacun de nous qui avions déjà pendant un temps servi le Seigneur, nous avons vécu des déceptions en nous-mêmes, de nous-mêmes. Parfois, dans mon désespoir, j'ai dit au Seigneur, est-ce que tu peux encore m'utiliser? Si je dis, Seigneur, je te donne ma vie, est-ce que tu peux me croire? Seigneur, pardonne-moi si tu ne peux plus me croire, si tu ne peux plus me faire confiance. J'ai souvent dit, et je l'ai vraiment pensé, mais cela ne m'a pas réussi. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi le faire du vouloir que tu as déjà mis dans mon cœur. Je crois que nous avons dit quelque chose au Seigneur, mais nous n'avons pas pu le tenir, n'est-ce pas? Mais alors il est écrit, même si nous sommes infidèles, il reste fidèle. Parce qu'il ne peut pas lui-même, n'est-ce pas, se renier. Accepter cela aujourd'hui dans la foi. Un plein salut, un salut entier. Et alors que nous allons passer maintenant au souper, je vous demande auparavant de vous examiner et de vous laisser accorder cette certitude que le pardon n'est pas dans le souper. Le pardon a eu lieu sur la croix, à Golgotha, l'expiation et le salut par le sang de Jésus-Christ. Avec ce sang qui a coulé aussi sur cette terre, il est monté dans le sanctuaire céleste et l'a présenté, n'est-ce pas, sur le trône de la grâce. Ici, nous avons du vin. Ici, nous avons du pain. Le vin représente le sang du Christ. Le pain représente le corps de Christ. Et pendant que nous prenons le pain et le vin, nous nous représentons que notre Sauveur, c'est la croix à Golgotha, a donné son corps et a versé son sang pour que nous ayons le salut et que nous soyons sauvés. Remercions le Seigneur de ce qu'il nous a sauvés. Remercions le Seigneur de ce qu'il nous a fait grâce. La paix sur terre et le bon plaisir divin dans les hommes qu'il agrée. Que le bon plaisir de Dieu aujourd'hui soit à nous. Acceptez-le. Romains chapitre 5, verset 1. Par la foi, nous sommes sauvés. Nous avons été justifiés par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est ainsi que nous avons la paix avec Dieu. Si quelqu'un est encore ici, qui n'a pas encore expérimenté encore personnellement cette paix avec Dieu, que maintenant, aujourd'hui, que ce court moment dans lequel nous serons dans la prière, que cela ait lieu, qui nous voulons que beaucoup soient encore sauvés et soient ajoutés pour que le salaire des douleurs du Seigneur soit rassemblé et que beaucoup de joie au ciel soit et aussi sur terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix et bon plaisir divin dans les hommes qui l'agréent. Aujourd'hui, nous sommes ceux sur lesquels le bon plaisir de Dieu se repose. Parce que nous avons trouvé la paix avec Dieu, nous avons reçu la paix avec Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous nous levons et nous prenons un peu de temps pour la prière. Il y a une chose que je demande maintenant. Ne soyez pas affligés, ne soyez pas découragés. Que laissez toutes vos lacunes, vos manquements derrière vous. Regardez à Jésus-Christ, celui qui suscite la foi et la rendre parfaite. Pas à vous, pas aux circonstances. Regardez ce que Dieu a fait pour vous aujourd'hui dans la foi. Et quand vous prenez le souper, alors faites de tout votre cœur. Dites Seigneur, aussi certain que maintenant je prends le pain, aussi certain, Seigneur, tu as souffert pour moi dans ton corps sur la croix à Golgotha. Aussi vrai que maintenant je prends ce vin, c'est aussi vrai aussi que sur la croix à Golgotha, tu as versé ton sang pour moi. Tu m'as sauvé. Je t'appartiens. Je suis ta propriété pour ce temps et pour toute éternité. Alléluia. Ensemble, nous te remercions de tout notre cœur et de toutes nos âmes, de toute notre âme, pour l'œuvre accomplie de la rédemption, pour le fait que tu sois devenu homme, pour tes souffrances, pour ta mort et ta résurrection glorieuse, pour ta montée au ciel, pour ton retour. Nous te remercions pour notre rédemption totale, pour notre justification totale et notre sanctification totale. Nous te remercions pour l'appel à sortir. Nous te remercions de ce que tu nous as ouvert les yeux et les cœurs pour nous donner de reconnaître le temps dans lequel nous vivons et le message et le messager, l'accepter. Par cela, nous scellons que, ô Dieu, tu es véritable et que nous avons pris ta parole au sérieux et que nous te croyons et croyons ce que tu as promis et avons la grâce de l'expérimenter personnellement. Bien-aimé Seigneur, nos cœurs sont remplis de reconnaissance. Tu t'es dépouillé de ta gloire. Et ta gloire a apparu au berger sur le champ. Ta majesté, ta gloire les a entourés. Toi-même, tu es devenu homme. Mais nous te remercions pour le jour qui arrive où en gloire tu reviendras et tous les genoux se prosterneront devant toi et toute langue confessera un jour que tu es le Seigneur. Bien-aimé Sauveur, comme cela est une douleur pour nous, quand des hommes te classent d'une telle ou d'une autre manière, non, tu es Seigneur, tu es roi, tu es le Seigneur et le roi, tu es tout en tous, nous t'adorons, nous te célébrons, nous te louons, nous t'adorons, nous te remercions, nous t'adorons. Toute langue confessera que tu es le Seigneur. Nous te remercions déjà maintenant pour cela, aujourd'hui, et te louons. Sauveur fidèle, aussi pour le souper, comme en mémoire à tes souffrances et à ta mort, à Golgotha. Car tu as dit, du fond du cœur, j'ai voulu avec vous prendre part au souper, avec ceux qui te croyaient et qui te suivaient. En tant que de telles personnes, nous sommes ici aujourd'hui, que tu puisses ensemble nous bénir, nous avoir bénis et être avec nous tous dans le Saint-Nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir.